Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Stéphane Carcillo, responsable de la division Revenu Travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission tous les jeudis. Il a publié pas mal d'ouvrages, notamment les discriminations au travail, aux presses de Sciences Po. Philippe Manière, le président de Veille Solis Communication, qui a publié Le Pangolin et l'ISF, Comment le monde d'après nous rend tous fous aux éditions de l'Observatoire. Gaël Steven, président de Doxa, beaucoup de réactions. Lucidite. Hashtag tout donne raison à Zemmour. Notre pays a besoin qu'on baisse le coût du travail pour mieux rémunérer les salariés qui du coup ont envie de travailler et on n'aura pas à mettre en place cet esclavage moderne voulu par le gouvernement. Débat d'experts intéressant, dit Bébard ce matin. Vous faites dans le fait divers de l'économie. Maintenant, je n'ai pas tellement l'impression qu'on soit dans le fait divers de l'économie. Hein. Vincent écrit, on peut gloser à l'infini et couper les cheveux dans le sens de la longueur, mais il est évident qu'une trop bonne indemnisation du chômage explique le mauvais retour à l'emploi. Pour lui, la durée d'indemnisation, Stéphane Carcillo, c'est le facteur numéro un. Je pense que l'un des problèmes de l'emploi en tension est dû à la difficulté de logement et au manque de mobilité, écrit Fabrice. Ce sont des éléments tout à fait audibles, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, je vais lire la suite dès que je pourrai. À vous entendre, et la conclusion que j'en tire, c'est que la réforme de l'assurance chômage, il faut y aller, quoi. Stéphane Carcillo. Il y a un moment, il faut arrêter, comme dit cet auditeur, de couper les cheveux dans le sens de ce que vous voulez. 24 mois jusqu'à 36 mois, ben voilà, le sujet est là. Sur cet aspect-là. Hein. Après, la mobilité est un sujet, la formation est un sujet.
Mobilité,
le prix du logement.
Mobilité, logement, formation, c'est très clair. C'est ce qu'on appelle les freins non monétaires au retour à l'emploi. Et ça concerne une partie non négligeable des demandeurs d'emploi. Mais l'assurance, oui. L'assurance chômage, pour ses paramètres, oui, c'est très important, je pense. Une fois encore, en période, comme actuellement, de forte tension du marché du travail, qui est, malgré tout, la situation exceptionnelle dans laquelle on est. On est une situation vraiment très particulière en ce moment, hein, parce qu'on a une, on sort d'une crise, on a une nouvelle crise qui arrive avec le pouvoir d'achat, on va en parler dans une seconde. On a un ralentissement qui s'annonce, mais un marché du travail qui n'a jamais été aussi tendu, à la fois en France et à l'étranger. C'est vraiment une situation très, peut-être paradoxale, de ce point de vue. Et dans cette situation, il est clair que on pourrait permettre à plus de personnes de sortir plus rapidement du chômage avec des meilleurs paramètres.
Il y en a un auditeur qui il m'a écrit hier parce qu'il m'a dit qu'il était belge et qu'il n'avait pas envie de se faire soigner en France. On disait que finalement en France c'était pas mal de venir se faire soigner quelquefois quand on est étranger, enfin quand on n'est plus sur le territoire métropolitain. Il est donc en Belgique, cet auditeur, qui écrit assez souvent. Il dit qu'il n'y a pas de limite dans le temps sur l'indemnisation chômage belge et que le taux de chômage n'est qu'à 5,7.
Alors en Belgique, effectivement, la durée d'indemnisation est très longue, mais le taux de finalement de le taux d'indemnisation, enfin le taux de remplacement, pour utiliser un terme, le pourcentage de son ancien salaire baisse avec le temps, donc il y a une sorte de dégressivité.
Ah oui, c'est une forme de limitation.
Voilà, il y a une forme de dégressivité, la Belgique étant, je pense, le seul pays qui a effectivement une durée d'indemnisation qui n'est pas limitée. Les autres pays sont tous aux alentours en moyenne de 12 mois d'indemnisation maximale.
Certains sont à 6. Hein.
Beaucoup sont à 6. Certains sont à 24. Il y en a 5-6 qui sont à 24 mois. Mais il faut avoir travaillé beaucoup plus longtemps que chez nous
pour atteindre
ces 24 mois. Par exemple, aux Pays-Bas, il faut avoir travaillé toute sa vie pour avoir 2 ans de chômage. C'est une fin de carrière. Effectivement, là, on a 24 mois de.
Non, juste un mot.
Parce qu'on avait testé justement l'opinion sur la réforme de la
Sécurité sociale. Non, mais très brièvement, parce qu'on est en train. On peut donner l'impression qu'on fait des calculs comptables. Qu'on est là pour optimiser, réduire les déficits.
Il y a côté un peu cynique dans l'économie.
D'abord, tout le monde, chacun d'entre nous, quand il fait ses choix, a forcément un peu en lui une dimension un peu cynique. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Les courbes se croisent, je change de courbe. Il faut l'assumer. Et c'est vrai pour tout le monde, les chômeurs, comme les employeurs, comme l'État, c'est parfaitement normal. Ce qui me semble important de rappeler tout de même, c'est que beaucoup d'études ont montré, là encore, Stéphane le sait mille fois mieux que moi, que la probabilité de retrouver un emploi quand on cherche un emploi décroît très vite au fil du temps qu'on passe dans le chômage. Autrement dit,
je crois que c'est 6 mois le décrochage.
C'est pas seulement pour faire des économies, c'est aussi dans l'intérêt des intéressés, si je puis dire, qu'il est utile que la période d'indemnisation ne dure pas trop, que la dégressivité soit forte, parce que sinon, et moi personnellement je l'ai vu, hein, encore une fois ça n'a pas de pertinence statistique, mais j'ai vu chez certains de mes amis qui se disaient bon, ça va, je vais prendre quelques mois, etc. En fait, assez rapidement, vous perdez votre valeur de marché.
Employabilité.
Et puis, bien sûr, quand il s'agit de gens employabilité et donc valeur de marché, capacité à retrouver un emploi au niveau de votre qualification, du coup, vous hésitez à reprendre un emploi parce qu'on vous propose des gens qui sont moins qualifiés, ça dure, ça n'en finit pas. Mmh. Donc, c'est vraiment pas... Il faut bien que les auditeurs comprennent, si je peux me permettre, que ça n'est pas seulement pour des calculs de coin de table et pour économiser de l'argent qu'il est important que les gens reprennent vite un emploi, c'est aussi dans l'intérêt de ceux qui se trouvent au chômage qu'il est bon qu'ils soient incités à chercher vite un emploi.
Il y a aussi un effet signal qui est assez négatif vis-à-vis de l'employeur, c'est-à-dire que non seulement on perd en capital humain, on perd en motivation, mais le signal qu'on envoie effectivement à l'employeur qui à un moment donné cherche des gens qui sont à la fois motivés et qui n'ont pas de gros problèmes en fait, qui fonctionneront bien sur l'emploi. Quelqu'un qui reste 2 ans au chômage, les employeurs
le coup du CV,
se demandent
comment vous expliquez ces 2 ans.
Et ça cet effet en fait il est important. Dès qu'on commence à dépasser 1 an de chômage, ça commence à être effectivement assez problématique.
Les grandes lignes de ce qu'on pouvait retenir de l'enquête qu'on avait menée ensemble, Gaëlle, que vous aviez menée pour notre baromètre avec Abeille Assurance.
Peut-être deux chiffres qui résument, donc c'était le mois dernier, c'est tout récent, deux chiffres qui résument peut-être un petit peu ce qu'on se dit là, mais du point de vue de la perception des Français. D'abord, une des questions qu'on s'est posée sur l'explication, la corrélation qu'il y avait entre le niveau de chômage et le nombre d'offres non pourvues, c'est peut-être parce que les chômeurs ne veulent pas accepter certains emplois qu'ils pourraient très bien prendre, car ils ont trop d'avantages à rester au chômage. On a posé texto la question.
Je me souviens, c'était...
Et on a... Alors c'est très partagé. Hein. On a 47% des Français, 47%. Quand même, qui disent ça. La première raison, ce qui explique, c'est ça. Et puis les autres trouvent des raisons qui sont liées aux conditions de travail proposées sur ces jobs qui seraient beaucoup trop dégradés, ce qu'on disait peut-être tout à l'heure sur des emplois qui intéressent davantage les étrangers notamment. Et puis on en avait, ça c'était 33% et 19% qui disaient, mais non, c'est parce que les emplois proposés ne correspondent pas au profil, l'inadéquation en fait entre les postes et les profils. Donc on a une France qui est très partagée sur le sujet. Et sur la réforme de l'assurance chômage dans son principe tel qu'exposé par Olivier Dussopt en disant quand ça va bien au niveau du chômage, du taux de chômage, du marché de l'emploi, on durcit les règles. Quand ça va moins bien, on les assouplit. On l'a testé dans le sondage dans notre baromètre du mois dernier. Et là aussi, les gens sont partagés sur le sujet, mais globalement, ils ont tendance à plutôt approuver. On est à 53% qui estiment que ce principe est un bon principe. Et enfin, on avait testé les différentes pistes à l'étude sur la réforme de l'assurance chômage, sur notamment la réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs. Et on est à 56% de Français qui sont favorables. Mais vous évoquiez, Philippe Manière, tout à l'heure, l'égoïsme notre propension à chercher tous à maximiser notre intérêt. En sondage, maximisation de notre utilité, exactement. En sondage, on le mesure de manière géniale à chaque fois. Ouais. Et là, en l'occurrence, sur l'assurance chômage, on mesurait que les personnes actuellement au chômage ou les catégories de population les plus en proximité de ces situations-là, notamment les catégories populaires, précaires, etc., étaient massivement opposées à cette réforme de l'assurance chômage. Personnes à la retraite, donc qui ne sont plus concernés par le problème, y étaient majoritairement favorables. Et je rappelle que c'est ce qu'on observe toujours sur la réforme des retraites, quelle qu'elle soit, avec une très large majorité de retraités qui disent « Mais oui, faites travailler plus les autres et les personnes en âge d'être actifs qui ne le souhaitent pas. »
Tout ça est parfaitement vrai, mais il y a des biais partout. Et il faut bien que la vérité, ou en tout cas la meilleure opinion parmi celles qui nous sont disponibles, soit elle aussi partagée par un certain nombre de gens qui sont biaisés. Donc oui, il y a des biais, mais c'est pas parce que certaines opinions sont soutenues par des gens qui ont un intérêt à la soutenir qu'elle est mal fondée. Comme disait Woody Allen, c'est pas parce qu'on est paranoïaque qu'on n'est pas poursuivi par ailleurs, persécuté par ailleurs. Donc, je suis complètement d'accord avec
ça. C'est pas ce que je disais.
Les retraités défendent leur intérêt en étant... Enfin, c'est normal qu'ils soient surreprésentés parce que c'est leur intérêt. Il se trouve qu'ils ont probablement raison aussi par rapport à un objectif plus général d'emploi, d'optimisation de l'allocation des ressources, de prospérité collective. Voyez.
En tout cas, sur la réforme de l'assurance chômage, si on raisonne en majorité, sur 50 et plus, 50% ou plus, on voit que sur ces sujets-là, l'opinion est plutôt du côté du gouvernement. Mais les clivages sociologiques qu'on enregistre suggèrent que c'est pas si simple non plus en termes d'accueil par certaines catégories de population, et notamment de renforcement de l'image d'un Emmanuel Macron, président des riches, etc.
Un tout petit mot, moi, ce qui m'amuse par rapport à ce que disait Stéphane tout à l'heure en particulier, c'est-à-dire que je crois que tout le monde peut se mettre d'accord sur le fait que ce serait intelligent que tout ça évolue en fonction du chômage, pour qu'on protège mieux quand il y a plus de chômage et qu'on incite plus quand il y a plus d'emplois. Enfin voilà. Ce qui est amusant, si je puis dire, mais sans doute problématique politiquement pour le président et pour son gouvernement, c'est que autant cette réforme est opportune, me semble-t-il, autant elle semble aujourd'hui particulièrement opportune parce qu'on est dans la situation très spécifique qui vient d'être évoquée, autant le temps qu'elle se mette en œuvre, elle risque d'apparaître comme à contre-cycle, deux, antisocial. Alors, évidemment, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Ce n'est pas parce qu'il y a ce risque-là qu'il ne faut rien faire, puisque de toute façon, c'est une réforme qu'il faut faire dans l'absolu. Mais on voit bien la difficulté politique, c'est-à-dire, ça semble très opportun, c'est souhaitable à long terme, très opportun aujourd'hui, c'est souhaitable à long terme, mais le temps que ça soit voté et qu'on en parle dans les journaux, ça va sembler être un truc particulièrement antisocial. Enfin, je vois très bien le boulevard qu'auront la NUPES ou la NUPES.
On n'a jamais mis les gens dans la rue avec l'assurance chômage. Avec les retraites, ça marche à tous les coups, mais l'assurance chômage.
Ça peut les deux en même temps, si vous voulez, ça, on va y venir, j'imagine, les deux, ça peut assez fortement résonner.
Le baromètre Doxa, Abeille Assurance, Challenge BFM Business, bon, vous ne serez pas très surpris d'imaginer quand même que l'essentiel de l'opinion voit l'avenir plutôt noir. Bon, bien sûr, ça, il y a des raisons, hein. Il n'y a pas que des raisons d'ailleurs économiques. Vous avez posé la question, Gaël Sliman, comment est-ce que les gens voyaient, chiffraient même l'inflation sur 12 mois? Vous savez, on vous donne toujours un chiffre d'inflation, elle est tant au mois de novembre ou au mois d'octobre, en glissement annuel. C'est donc une inflation, évidemment, sur 12 mois. Je vous rappelle le dernier chiffre de l'INSEE qui a été publié. On est passé au-dessus des 6%.
6,2, je crois.
On est à 6,2. Et si on utilise l'IPCH, donc l'indice des prix à la consommation harmonisé au niveau européen, on est un peu au-dessus de 7. Mais on va rester sur l'indice IPC de l'INSEE. 6,2, c'était le dernier. C'est le octobre en glissement annuel. Et donc, quand on pose la question...
Alors, réponse chiffrée donnée par les uns et les autres, donc ça nous permet de faire des strates, des couches, ce que vous voulez, et de calculer des moyennes. En moyenne, on est à 12,5. C'est-à-dire que quand on demande aux Français à combien estimez-vous la hausse des prix à la consommation en France sur les 12 derniers mois, on est à 12,5%. On avait posé la même question en septembre, donc ça consacre une grosse progression aussi de cette perception de l'inflation, de cette inflation perçue, puisqu'on était à 8,6% perception au mois de septembre dernier. Et on a, pour vous donner quelques chiffres spectaculaires quand même, 35% des personnes interrogées qui estiment l'inflation à plus de 15%. 15, 20, 25. Alors,
et 60% à plus de 10.
Et 60% nous disent qu'on est sur une inflation à deux chiffres aujourd'hui à plus de 10. Alors, quand même, sur ces questions, il y a de la température ressentie et de la température réelle. Sur ces questions d'inflation, n'allons pas trop vite parce que j'enregistre régulièrement des mesures perçues par rapport à des mesures objectives. Bien souvent, il y a un biais de pessimisme qui peut exister chez l'être humain en général, et le français en particulier, quand on fait des benchmarks internationaux, qui est réel. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que les prix à la consommation sur ce que l'on achète tous les jours, sur les biens de consommation courants, effectivement qu'ils sont à 15, 20 ou 25%. Donc c'est très difficile pour une...
Beaucoup. Quand vous avez... C'est la certains produits de consommation.
Vous avez du poulet, par exemple. Enfin, je ne sais plus la liste des prix qui ont pris du 20, du 30...
Les œufs, c'est monumental. Le lait, c'est monumental.
Donc, faudrait regarder globalement sur les biens de consommation alimentaires. Mais je pense qu'on doit être sur une inflation à deux chiffres sur cela. Et sur l'essence, que les personnes qui prennent de l'essence utilisent, quand il y en a, on est aussi sur des évolutions très élevées sur les 12 derniers mois. Donc, globalement, cette perception, elle est peut-être pas idiote si on se réfère à cela. Et après, il y a cette idée que j'évoquais tout à l'heure, qui tient au fait que les neurosciences le mesurent très bien. On ressent beaucoup plus durement les 5 euros qu'on vous a retirés que les 10 qu'on vient de vous donner. Et ça, l'être humain est ainsi fait. Et les autres résultats du baromètre nous montrent que l'inflation, là, elle pèse très lourdement sur le quotidien des gens. On avait un précédent sondage qui montrait que les 3/4 des Français en tenaient compte et que ça impactait leur comportement de consommation.
On va voir justement. Oui.
Donc, tout ça fait sens.
C'est ce que vous dites sur « on vous prend 5 euros, c'est très douloureux, on vous en rend 10, personne ne le voit ». Ça me rappelle quand même vraiment le chèque de sortie gilet jaune. Emmanuel Macron sort 17 milliards d'euros, une prime d'activité qui grimpe à 90 euros plus 10 euros égale 100 euros. Et... les sondages, enfin les micro-trottoirs. Micro-trottoirs, c'est très limité comme exercice. Vous avez 55 secondes d'image, 4 mecs qui répondent, et c'est l'opinion des Français telle que c'est présentée. C'est un peu... on n'a rien eu.
C'est comme la commisération que certainement il mérite structurellement, mais que les métiers du soin reçoivent également aujourd'hui, comme il y a 2 ans. Or, entre-temps, il y a eu des efforts absolument considérables. Mais quand je dis absolument considérables, je crois qu'on n'avait jamais vu d'augmentation de ce niveau, de cette rapidité, pour des fonctionnaires, alors fonctionnaires toutes catégories confondues, par rapport au salaire de base. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il ne le fallait pas le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire plus, je dis simplement qu'on ne peut plus du tout, du point de vue de la rémunération, parler aujourd'hui des infirmières comme on en parlait il y a 2 ans. Or, on en parle exactement de la même manière. Comme si c'était des métiers difficiles et mal rémunérés. Ils restent peut-être insuffisamment rémunérés, mais ils ne sont pas du tout rémunérés comme ils l'étaient il y a 2 ans. Vous voyez, donc ça, c'est
ah, mais l'effet, oui.
Donc, c'est d'ailleurs terrible, c'est un problème de politique publique épouvantable. C'est-à-dire que les cadeaux coûte très cher et on ne vous en fait jamais gré. On ne vous en sait jamais gré. Moi, personnellement, la conclusion que j'en tire, c'est qu'il faut essayer d'éviter de faire des cadeaux. Je ne parle pas de cadeaux particuliers, en particulier pas de ceux des infirmières. Je ne voudrais pas que les gens pensent que je suis contre l'augmentation des infirmières. Mais ce qui est vrai, c'est que quand vous réalisez, par exemple, vous voyez, sur cette histoire de le coût très considérable de la mesure qui consiste à réduire artificiellement le prix des carburants.
Oui.
Très considérable. Ce sont des dizaines et des dizaines de milliards qui sont mis sur la table. Les gens continuent à dire que l'essence augmente et que ça va pas. Enfin, on ne fait pas des manifestations pour remercier le gouvernement d'avoir empêché le prix de l'essence d'augmenter. Donc, vous avez, à mon avis, en termes, je pense qu'on ne réfléchit pas assez à ça, en termes de combinaison de tactiques politiques et d'optimisation des politiques publiques, il y a des choses qu'il ne faut pas faire parce que vous n'en serez pas payé politiquement et ça n'a pas un très grand avantage en termes de politique publique. Or, ce sont, à mon avis, assez typiquement les choses qu'on fait.
Mais il faut reprendre effectivement précisément les chiffres du Ségur de la santé. Et poste par poste, en fonction de l'ancienneté, les augmentations mensuelles que ça a pu représenter pour l'ensemble des personnels professionnels de santé, on est sur des centaines d'euros par mois.
Oui, oui.
Voilà. Donc effectivement, on pourra dire que ça n'est pas suffisant, mais dire qu'il n'y a rien eu. Non. Ça vous inspire une réflexion, Stéphane Carcillo? On est éternellement d'abord sur le sujet de l'inflation, du pouvoir d'achat, et puis sur l'écart entre ce que va vous dire l'INSEE, qui effectivement... L'INSEE, c'est vrai, a une prise en compte du logement qui est tout à fait spécial, ça j'admets qu'il y a un truc, mais là, bon, ben, 6,2 et ressenti moyen à 12,5.
Non, mais tout a été dit. Enfin, l'être humain surpondère les mauvaises nouvelles, voit ce qu'il y a au quotidien. Donc effectivement, l'alimentation, l'essence, c'est ce qu'on voit au quotidien le plus souvent. L'indice des prix, il est composé de plein de choses qui n'ont rien à voir avec ça. Donc la moyenne, je pense que les Français, il est naturel qu'ils puissent pas la calculer. Non, c'est une hausse qui est très soudaine et du coup qui en plus aujourd'hui est décorrélé de l'évolution des salaires. Donc ce qui aussi renforce cette impression, les gens sont quand même pris au porte-monnaie de manière très forte, ils se rendent compte à la fin du mois, parce que les salaires ne suivent pas, en tous les cas ne suivent pas avec la même rapidité, pour toutes sortes de raisons, parce qu'on a arrêté tous les mécanismes d'indexation des salaires
dans
les années 80.
Oui,
voilà,
bah...
donc, et à part le SMIC qui est indexé, les autres salaires ne le sont pas, et leur évolution dépend des négociations de branches et d'entreprises, qui ont lieu de manière sporadique, ponctuelle,
retardé,
etc. Avec de bonnes raisons et de mauvaises raisons. De bonnes raisons aussi parce qu'on se dit, est-ce que si ce phénomène n'est pas durable, on ne va pas donner des augmentations pérennes parce que les prix vont finir par se calmer et certains prix devraient redescendre. Voilà, donc c'est cette idée qu'on va faire des choses assez ponctuelles. Aussi, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc on dit, on va attendre janvier, etc. Et en attendant, les Français, d'ailleurs, et pas seulement les Français, ce n'est pas un problème uniquement français, c'est un problème partout en Europe et dans les pays développés. Les salaires aujourd'hui évoluent partiellement, pour compenser partiellement l'augmentation des prix, mais ça se ressent très fortement du coup chez les ménages.
Il est clair que là il y a un débat sur l'indexation, débat politique, faut-il revenir à une indexation des salaires sur l'inflation? Le problème c'est qu'on a à peu près l'assurance que si on fait ça, on aura ce fameux effet de second tour avec une inflation qui s'emballe et qui atteint...
Là ça sera très 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 dur.
La réponse économique, elle est évidemment non, surtout pas. Après, quand on a dit ça, on n'a rien dit, parce que subsidiairement, s'il n'y a pas d'augmentation générale, d'indexation, exogène pour des raisons légales ou réglementaires, qu'est-ce qui va se passer? Sur le marché, chacun va essayer d'optimiser ses situations en fonction de sa capacité de négociation.
Bien sûr.
Et donc, évidemment, pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure, les geeks qui prennent un verre dans le 11e ont une capacité de négociation très supérieure à l'ouvrier dont il n'est pas bien sûr que l'usine ne va pas fermer dans une sous-préfecture où toutes les autres usines ont déjà fermé. Et donc vous vous trouvez dans une situation, s'il n'y a pas d'indexation, et encore une fois, c'est ma préférence qu'il n'y ait pas d'indexation, mais je pense qu'il faut être conscient du prix à payer socialement, c'est que vous avez forcément à l'arrivée un accroissement des inégalités qui ne sont pas forcément, je ne porte pas de jugement moral, je dis simplement que ceux qui ont un pouvoir de négociation, quand il n'y a pas d'indexation, par définition, sentir mieux que ceux qui n'ont pas de pouvoir de négociation. Donc, il faut aussi penser à ça, et je pense que ça ne m'amène pas à penser qu'il faut tout réindexer, surtout pas, encore une fois. En revanche, je pense que quand on va être sorti de cette phase, pour autant que ce soit une phase pas trop durable, et que ça soit vraiment une phase, hein, parce qu'il y a plusieurs hypothèses dans cette matière, mais si on en sort, faudra pas oublier de s'occuper de ceux qui, n'ayant pas le pouvoir de négociation aujourd'hui, n'ont pas pu rattraper autant que ceux qui l'avaient, la hausse des prix en termes de rémunération.
C'est un point important.
Mais c'est pour ça que certains, Stéphane, se demandent si on pourrait pas avoir une indexation jusqu'à 1,3, 1,4, 1,5.
Non, mais après, vous avez les effets de seuil. Non, là, on est parti pour la gloire. Là.
Voilà, effectivement, là, la France a fait le choix d'un salaire minimum indexé de manière automatique. Très peu de pays l'ont fait. Voilà, donc ensuite, ça déclenche naturellement des mécanismes de diffusion, parce que les employeurs ne souhaitent pas forcément voir tous leurs salariés rattrapés par le salaire minimum. Donc ça déclenche certaines choses jusqu'à, on pense, 1,4, 1,3, 1,4 SMIC. Donc ça devrait déclencher ce genre de phénomène. Que les salaires ne s'ajustent pas à 100% pour l'inflation aujourd'hui, c'est à la fois compréhensible du point de vue de la grande incertitude qu'il y a, et aussi, je veux dire, les entreprises font face à un choc massif.
Bah oui.
Donc, quelque part,
elles aussi, elles ont des inputs qui augmentent.
Elles ont des inputs qui ont augmenté. Donc, quelque part, on partage le coût.
Bien sûr.
C'est-à-dire que, à la fois, on ne veut pas créer une boucle inflation-salaire, mais les entreprises sont extrêmement contraintes, à la fois parce que le prix des inputs augmente pour tout, qu'elles ne peuvent pas nécessairement répercuter autant qu'on le pense sur les prix, en tout
clairement.
Cas, pas
non, mais c'est évident. On a parlé ici.
Et elles ont en plus un salaire minimum qu'augmente pour certaines d'entre elles, donc c'est un coût supplémentaire, parce que là, du coup, c'est indexé, donc sur les autres salaires, elles ne peuvent pas faire autant. Donc, bon, pour l'instant, on est dans cette situation de ce choc, et la situation des salaires reflète le fait que simplement ce choc doit être partagé entre entreprises et salariés.
Vous avez la solution de la mal nommée ou de l'abusivement nommée prime Macron, qui permet quand même, pour ne pas rentrer dans des phénomènes d'effet cliquet, parce que quand vous augmentez un salaire, effectivement, ça a été dit, vous ne pouvez pas revenir en arrière.
Vous ne redescendez pas.
On ne redescend jamais. En revanche, vous pouvez verser des primes exceptionnelles sans que celles-ci ne soient chargées pour l'employé ou pour l'entreprise. Ce sont des solutions ponctuelles que les entreprises qui peuvent le faire pourraient adopter. Pour un petit peu desserrer. Beaucoup l'ont fait.
J'ai pas mal d'auditeurs qui considèrent qu'autour de cette table, il n'y a personne pour protéger les pauvres. On tient des discours, finalement, d'un cynisme économique inaudible.
Parce
qu'on a dit qu'il fallait réformer l'assurance chômage en réduisant probablement la durée d'Ademe.
Il y a un instant par Philippe Manière, mais quand même, dans les données, étant le porte-parole de ce que nous disent les Français à travers les sondages, c'est une attention, cette histoire de l'injustice sociale qui frappe plus durement. En période de crise, c'est un sujet qui est très présent dans l'esprit des gens. Un des résultats du baromètre, quand même, on le dit souvent, les Français, quand ça va mal, ils épargnent, quand ça va bien, ils épargnent encore plus.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Là, les changements de comportement.
Là, on a des changements de comportement parce que vous avez quand même 38% de la population qui nous disent « j'ai dû déjà puiser dans mon épargne à cause de la situation de l'inflation de ces derniers mois ». Et comme on suit ça dans le temps, on a 10 points de hausse que l'on peut observer depuis juin dernier.
Source 7 des épargnants.
Oui, c'est ça. J'ai tapé dans mon épargne pour faire face à cette situation économique. Alors qu'on sait bien que le Français, quand ça va mal, il a plutôt tendance, quand il le peut, à mettre de côté. On avait d'ailleurs vu pendant la période Covid une explosion de l'épargne de nos concitoyens. Mais pas tout le monde ne peut épargner.
Non, mais la France a des dispositifs de protection contre la pauvreté qui sont exceptionnels.
Unique au monde.
Objectivement, vraiment exceptionnel. Le SMIC pour les travailleurs potentiellement pauvres ou faiblement rémunérés est indexé sur l'inflation et sur la moitié des gains de productivité. Ça n'existe quasiment nulle part ailleurs, cette automaticité. Les minima sociaux sont tous revalorisés avec l'inflation. Donc, tout ça, évidemment, dans certaines situations, pas nécessaire pour sortir de la pauvreté, mais aucun pays, y compris les pays nordiques, sortent les gens de la pauvreté avec les minima sociaux, donc pour toutes sortes de raisons, y compris des raisons d'incitation. Mais voilà, la France a en place des systèmes automatiques qui font que pour les plus démunis et les plus pauvres, la situation, quelque part aujourd'hui en tous les cas, est bien plus protectrice face à cette montée des prix.
Et ce que dit Stéphane est absolument vrai structurellement, et les Français n'en ont pas suffisamment conscience. Enfin, il n'y a pas de pays au monde qui soit plus protecteur et plus redistributeur et plus égalitaire.
On l'a dit mille fois,
la redistribution. Et ça a mille raisons de perdurer, dont des raisons morales. Je pense qu'il y a des effets d'optimisation et de sous-optimisation à avoir en tête, mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter ça. Je voudrais ajouter à cette observation structurelle évidente, et encore une fois, personne à part Stéphane peut en parler plus savamment. Vous connaissez tous les dispositifs concurrents, vous les avez étudiés de manière comparative, vous nous dites, vous, que c'est le meilleur. Donc, je veux dire, c'est comme ça, quoi. On est le... Bon, mais ajoutons à ça tout de même, il ne faut pas oublier, pour répondre à votre auditeur, qu'on a mis sur la table depuis 14 mois 40 milliards d'euros avec les dispositifs de bouclier, de machin, de pouvoir d'achat, etc. C'est enfin, un peu moins de 40, mais c'est à peu près l'équivalent du budget de la défense. Non, faut pas, c'est pas rien.
C'est le budget de défense.
Oui, quand on donne 18 canons aux Ukrainiens, ce qui fait de nous le plus petit donateur d'Europe, peut-être à l'exception de la Suisse et du Luxembourg, j'ai pas vérifié, c'est parce qu'on peut pas leur donner plus, parce qu'on en a on en a si peu qu'on peut pas leur donner plus. Pourquoi? Parce que, à force de faire du social, et je dis pas que c'est un choix qui n'a pas ses vertus, on ne peut plus faire du structurel. Et ça, c'est vrai dans le dispositif de protection qui prévoit en général, qui correspond à des choix sociaux, des choix collectifs, et c'est vrai a fortiori cette année, avec tous les mécanismes de protection, de bouclier qu'on a ajoutés. Donc on ne peut pas dire que la France ne fait pas énormément. Elle fait énormément pour la redistribution, pour la protection, c'est un fait.
Juste, David m'écrit, est-ce que les partisans de l'indexation des salaires seraient prêts à baisser les salaires en cas de déflation? C'est comme les super profits, est-ce qu'on va indemniser les super pertes?
On a déjà répondu là-dessus en expliquant qu'on ne pouvait pas baisser les salaires et d'où l'histoire de prime dite Macron. Je dis dite Macron, c'est pas Macron qui la verse, c'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure. Ce sont bien les entreprises. Mais quand même, précisons que ce que vous décrivez l'un et l'autre sur le niveau de protection sociale en France n'est pas étranger aux Français. Ils le connaissent, ils le savent. Et en fait, ce qu'on enregistre régulièrement dans les études, c'est qu'ils ont peur, ils ont le sentiment de vivre quelque chose d'exceptionnel et ils ont l'impression que c'est menacé et qu'on se dirige vers une normalisation, entre guillemets, c'est-à-dire vers un rapprochement de pays avec un modèle social moins fort et qui du coup ne leur correspond pas. C'est ça l'angoisse des Français et toutes les réformes qui sont d'inspiration dite libérale, et c'est pour ça qu'il a cette image de président des riches d'ailleurs Emmanuel Macron, parce qu'on lui prête cela. Tout cela renforce cette angoisse des Français qu'on se dirigerait vers un modèle anglo-saxon.
Bon, on va s'arrêter.
Il y a aucun indice qu'on va dans ce sens-là, mais c'est très curieux parce que les gens.
Ah bah si, les indices que vous avez, je dis pas que c'est la vérité, mais les indices que décodent les gens comme on va dans ce sens-là, c'est tous les messages envoyés par Emmanuel Macron et il a mené des politiques en ce sens, on en a parlé tout à l'heure, voulant aider davantage les entreprises, alléger les charges, inciter, on l'évoquait tout à l'heure sur la réforme de l'assurance chômage, à diminuer les droits au fur et à mesure où on est au chômage. Ce sont ces sujets-là que les gens interprètent comme ça.
Stéphane Carcillo, Philippe Manière et Gaël Slimane, donc pour le baromètre mensuel avec Abeille Assurance, Challenge BFM Business. On se retrouve demain à 9h. Enfin, vous serez avec Stéphane Pedrazzi demain.